bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode. Alors, on en est où là? Ça sera quoi? Ça sera le 29. On sera le 29 quand cet épisode va sortir, donc 8h mardi 29 au matin. On arrive à la fin de l'année. Quel bilan vous faites de cette année? À mon avis, il est pas fameux. Mais mine de rien, si vous écoutez le podcast et que vous êtes encore là, j'espère que vous vous entraînez bien, j'espère que vous arrivez à suivre plus ou moins votre routine. D'ailleurs, il y a un article qui va aller en lien avec ça un petit peu pour rassurer, en tout cas déculpabiliser des personnes qui ne pourraient pas passer autant de temps à s'entraîner qu'ils le souhaiteraient. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai sorti moi ce week-end ? Ce week-end, j'ai publié sur le site quelque chose qui pourrait vous plaire, surtout en cette période. J'ai revisité 7 cheat meals classiques, donc franchement les plus classiques, les plus hardcore même qui existent, et je vous les ai suggérés en version plus saine, de manière à pouvoir peut-être le week-end, quand vous faites des petits écarts de conduite, manger un petit peu plus sainement. Et du moins, en tout cas, en faire plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un vraiment complètement crade, en faire deux qui sont légèrement plus sains, tout en conservant le goût. Parce que c'est ça le but. Le but de ce que j'ai proposé dans la vidéo, c'est de faire justement, de ne pas perturber le goût. Parce que faire des cheat meals sains, c'est relativement facile. En fait, on enlève tout ce qui a bon goût, tout ce qui est transformé et tout. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir quelque chose de plutôt fade, mais de sain. Et là, j'ai essayé de trouver un équilibre entre les deux, en vous proposant quelque chose qui aura le même goût. Et en fait, par quelques petits réflexes, avoir des aliments bien plus sains, que ce soit pour votre charge ou votre cheat meal. Parce que faut pas oublier une chose. Beaucoup de personnes disent que si tu es obligé de faire des cheat meals, c'est que t'es frustré. Moi, je suis pas du tout de cet avis. Personnellement, je trouve que, personne n'est parfait. Deux, c'est normal de profiter de certains plaisirs de la vie. Après, c'est toujours une question de ratio. Évidemment, si du lundi au dimanche, vous avez tous les jours un repas type fast-food et tout, ouais, c'est pas cohérent par rapport à des objectifs fitness, même pas du tout. Mais par contre, si c'est un petit plaisir du week-end, la petite récompense ou le moment plaisir partagé, en ce moment, c'est pas trop le moment, mais bon, bref. Je trouve ça beaucoup plus cohérent et je trouve ça même sain finalement d'avoir ce genre de démarche là, parce qu'en fait on replace le plaisir au bon endroit et le reste du temps on fait le job pour avoir la ligne, pour être en forme, etc. Donc on va voir dans cet épisode pas mal de petites choses là-dessus. Si ça vous intéresse de savoir comment faire des cheat meals sains, ça c'est sorti dimanche à 10h, donc vous avez le lien en note de l'émission. Ça s'appelle 7 cheat meals en version saine, et je crois que j'ai mis 16 conseils perso aussi, des choses que je fais moi perso pour assainir un petit peu tout ça, des petits réflexes, en tout cas des réflexes à avoir tout simplement quand je fais des cheat meals. Voilà, donc vous avez le lien dans les notes de l'émission et on démarre le podcast tout de suite avec les actualités. Bon, avant de démarrer les actualités, je vais vous partager un petit peu ce que moi j'ai fait durant la période de Noël là. C'est pour déculpabiliser beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que quand on regarde quelqu'un sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram, Facebook, YouTube et tout ça, à partir du moment où la personne a une petite audience, elle affiche un petit physique, etc., un peu en forme et tout, on a tendance à l'idéaliser, dans le sens où on a tendance à croire que lui, il doit pas faire telle chose. Enfin, moi, beaucoup de personnes, quand je les ai en consultation, me disent « toi, tu dois pas souvent faire ci, faire ça, au niveau d'écart alimentaire et tout ça ». Et en fait, c'est faux. Et même quand je me retrouve, par exemple, à un repas de famille et tout ça, certaines personnes me disent « toi, des pizzas, tu dois pas en manger souvent ». Et tout, sur le ton de l'humour bien sûr, c'est pas un reproche qu'ils me font ou quoi que ce soit, c'est évidemment sur le ton plutôt même de la flatterie, j'ai envie de dire. Eh bien, la réalité, c'est que non. Et ils sont souvent surpris que lors des repas comme ça, je mange plus qu'eux, je mange quasiment tout ce qu'il y a sur la table. C'est-à-dire que je me prive pas, en fait. Hein. Quand je dis je mange tout ce qu'il y a sur la table, je fais pas le goré. Quand je dis ça, c'est que juste, si on me propose admettons, du foie gras ou, je sais pas, de la bûche ou des choses comme ça, je veux en manger. Les seules choses que je m'empêche de manger, c'est les choses qui pourraient me rendre malade. Moi, j'ai une petite faiblesse digestive au niveau de l'assimilation, enfin de la digestion du lactose. Donc forcément, tout ce qui est crème, tout ce qui est laitage et tout ce qui va être, vous savez, les glaces et tout. Donc une bûche glacée, par exemple, moi je la mangerai pas parce que je sais que même si le goût est sympa, j'ai pas envie de payer la facture d'avoir mal au bide toute la nuit derrière. Donc après, moi c'est les seules limitations. Sinon après, quand ce sont des moments plaisir, je me dis toujours la même chose. Je me dis qui plus qu'une personne qui fait du sport et qui fait attention à sa diète toute l'année ne peut se faire plaisir finalement. C'est justement ça en fait la clé. C'est que c'est un petit peu la récompense, ou je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais disons qu'il y a pas, moi j'ai pas du tout de culpabilité finalement à faire ce genre de choses. Donc j'ai très bien profité des repas de Noël, enfin du 24 au soir, parce que le 25 on n'est pas très 25 au midi dans mon entourage, même si d'ailleurs j'ai fait une petite raclette, voilà, pour le 25 au midi, une petite raclette, petit comité. Mais sinon, le 24 au soir, en famille, j'ai bien mangé et je me suis même resservi. Voilà. Bref, j'arrête ici. C'était juste pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé pendant mes fêtes. Les actus. Donc, on va parler de muscles. On va parler de muscles dans les actus de la semaine. Des actus qui ne sont pas forcément des actus, mais qui sont des petites notes d'articles que j'ai récupérées. Alors le premier, c'est de lanutrition.fr, donc c'est qui l'a écrit, je note à chaque fois, c'est souvent la même personne, hein, elle écrit des bons articles, je trouve, c'est Sarah Amiri, et donc du coup j'avais récupéré dans son article, déjà le titre c'est 12 minutes d'exercice par jour suffisent pour améliorer la santé métabolique, donc j'ai trois paragraphes que j'ai surlignés, donc le premier c'est dans cette étude publiée dans la revue Circulation, l'équipe de recherche s'est appuyée sur les données de Framingham Earth Study, pour mesurer les niveaux de 588 métabolites avant et immédiatement après 12 minutes d'exercice de type cardio ou en aérobie chez 411 hommes et femmes d'âge moyen. Le résultat, environ 12 minutes d'exercice ont eu un impact sur plus de 80% des métabolites en lien avec la santé métabolique. Par exemple, le glutamate, un métabolite cité lié aux maladies cardiaques, au diabète et à la diminution de la longévité, a chuté de 29%. Et le DMGV, un métabolite associé à un risque de diabète et de maladie du foie, a chuté de 18%. Ce qui est frappant, ce sont les effets qu'une brève séance d'exercice peut avoir sur les niveaux de circulation des métabolites qui régissent des fonctionnements corporels clés tels que la résistance à l'insuline, le stress oxydant, la réactivité vasculaire, l'inflammation et la longévité, déclare le docteur Gregory Lewis, auteur principal de l'étude. Donc là, pourquoi j'ai voulu récupérer cet article? Tout simplement parce que je comprends qu'avec les salles fermées, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer, donc c'est-à-dire de s'équiper, d'acheter un banc, d'acheter des haltères, d'acheter des élastiques, d'acheter un tapis par exemple pour faire ses abdos, etc. Bref, toutes ces personnes-là se sont mises à culpabiliser ou alors à minimiser les effets de l'exercice, par exemple au poids de corps ou de l'exercice de type cardio, petit footing sur un tapis de course. Mais ça m'étonnerait que tout le monde ait un tapis de course chez soi, mais plutôt dans la rue, sous prétexte que vu qu'ils ne peuvent pas aller faire leur sport pendant une heure et demie en salle de sport, en faire un petit peu à la maison, ça ne servira à rien. Moi, je trouve que là, ça montre bien que justement les effets bénéfiques sur la santé métabolique arrivent très certainement avant les effets bénéfiques sur le tour de taille ou la masse musculaire. Je ne pense pas qu'en 12 minutes on arrive à prendre du muscle, je ne pense pas qu'en 12 minutes ce soit suffisant pour rapidement brûler du gras. Par contre, au niveau de la santé métabolique, ça peut avoir un intérêt. Donc, pour toutes les personnes qui s'entraînent encore à la maison et qui ne progressent pas, qui stagnent et qui maintiennent un petit peu leurs acquis avec des petits entraînements poids de corps, etc., sachez une chose, c'est qu'au moins ce que vous faites de positif, c'est de maintenir une bonne santé métabolique. Et je pense clairement que durant cette période, c'est important. C'est vraiment en cette période que c'est important justement de non pas de se mettre dans le rouge, parce que moi, je fais justement une phase de déload durant cette semaine-là, entre Noël et Nouvel An. Mais par contre, au niveau de la santé métabolique, de faire de l'exercice, en fait, le thème faire de l'exercice, le terme, pardon, je trouve ça intéressant de faire ce genre de choses, c'est-à-dire un petit peu de cardio et tout ça, et de ne pas se fixer, par exemple, de se dire aujourd'hui, je fais une heure de sport, pas la peine de faire un petit peu. Et vous verrez quand vous serez dedans, moi, la dernière fois que j'ai fait une séance en avec comme objectif de faire une courte séance, parce que je me suis dit bon bah c'est dimanche matin, je vais juste faire un petit peu d'exercice. Je me suis retrouvé lancé dans la séance et finalement j'en ai fait 1h15, 1h30, mais pas avec une grosse intensité, c'est-à-dire que j'ai fait 30 minutes de vélo. D'ailleurs, je fais l'inverse de ce que je recommande en temps normal, c'est-à-dire le reste de l'année, quand je fais de la muscu plus du cardio, c'est-à-dire qu'en temps normal, je fais plutôt muscu et après cardio, parce que je veux toute mon énergie pour la musculation. Ce qui est plus intéressant, parce que ça taxe beaucoup moins le cardio, donc mieux vaut faire muscu puis cardio, alors que si vous faites cardio, vous impactez un petit peu votre vitalité, votre énergie pour la muscu qui est ensuite. Mais là, vu que c'était juste de l'exercice que je faisais, j'allais pas à l'échec, c'était pas des poids lourds, etc., beaucoup de poids de corps et tout, donc du coup, j'ai fait mes 30 minutes de cardio, et après, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais faire quelques petites élévations latérales légères pour les épaules, un petit rappel, et puis je vais faire quelques pompes, et puis je vais faire quelques obliques avec kettlebell, tranquillement, mais sans me prendre la tête en regardant une série à Netflix en même temps devant ma télé sur mon tapis de salon quoi. Et finalement la séance, j'ai fait de l'exercice pendant 1h30 et je trouve que ça ce genre d'avoir la capacité de faire des séances parce que je sais que tous ceux qui m'écoutent tous ceux qui s'entraînent depuis longtemps en muscu, on a ce biais, c'est-à-dire que si on ne va pas à fond, on n'est pas à fond, donc c'est pas bon. Et c'est très compliqué pour des pratiquants comme toi qui m'écoutes ou comme moi d'être capable de faire moins, c'est-à-dire de ne pas aller à l'échec, de ne pas forcer, parce que quand on a été habitué pendant des années, moi ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne, de forcer vraiment à fond à chaque séance, c'est très compliqué en fait de ne pas aller à fond durant une séance. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'enfiler des perles. Et en fait, faut se détacher de ça. Faut se dire l'objectif du jour n'est pas de progresser, de faire de l'hypertrophie ou d'aller au bout de ses capacités, mais vraiment de dire je fais de l'exercice. Et j'aime bien ce terme faire de l'exercice parce que c'est simplement faire circuler le sang, bouger un petit peu. Il y en a qui vont me dire mais c'est une séance perdue, mieux vaudrait récupérer. Ben je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis plutôt dans la récupération active que la récupération passive. Pour moi, me reposer à fond une journée me fatigue presque plus que de faire justement un petit peu d'exercice, parce que faire un peu d'exercice me met en bonne condition pour passer une bonne journée. Je sais pas, je le ressens comme ça. C'est une forme d'addiction à l'exercice peut-être quelque part, mais parfois c'est suffisant pour sécréter des hormones ou des neurotransmetteurs en tout cas qui est précurseur du bien-être, et moi je trouve ça intéressant de faire un petit peu d'exercice comme ça. Donc voilà, rassurez-vous, à partir de 12 minutes le sport commence à avoir un effet. Alors pas forcément sur le tour de taille ou sur la prise de masse musculaire, mais en tout cas sur la santé métabolique, et c'est déjà, je pense, pour le long terme, une bonne chose. Deuxième article que j'ai récupéré, c'est sur la mémoire des muscles. Alors c'est un article qui est, je bois un petit coup, c'est très frustrant de faire des podcasts, parce que vous savez, quand on fait un podcast, on pourrait très bien être en slip, pantoufles mal coiffées, pas rasées, les dents pas brossées, etc. Personne le saurait. Et en fait, moi, j'ai des routines un petit peu qui ont été instaurées depuis que je travaille à domicile, que je suis à mon compte finalement. Je m'interdis finalement d'être négligé. Bien que personne ne me voit finalement travailler, et c'est pour ça que je dis c'est frustrant en podcast, parce qu'en fait on fait attention, on est coiffé, on est rasé, on a les dents brossées, on est bien habillé, et personne ne nous voit. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est quelque chose qui me vient en tête immédiatement là, parce que le podcast est vraiment on peut vraiment tromper les auditeurs en faisant croire qu'on est hyper bien entouré dans un super studio et tout ça, alors que la réalité montre que on est plutôt avec juste du bon matos, mais dans un appartement ou dans une maison ou dans un garage même. Et c'est pour ça que je trouve que le podcast, c'est un petit peu comme de la lecture. Vous savez, quand on lit un bouquin, on se construit nous-mêmes l'image du héros, l'image du narrateur ou même du décor, etc. Bref, c'était petite pause légère entre deux sujets. Donc la mémoire des muscles, un article de Pour la Science qui date un petit peu, mais je trouve ça intéressant parce que c'est finalement la réalité. Donc je voulais vous le partager avec une explication assez complète. Alors, les longues fibres pouvant atteindre 30 cm de long, donc musculaires, les cellules musculaires des muscles squelettiques font partie des rares cellules de l'organisme comportant plusieurs noyaux. Leur taille augmente lorsque le muscle est soumis à l'exercice, ainsi que le nombre de myofibrilles. Long filament protéique contenu dans ces cellules est responsable de la contraction et de la relaxation du muscle. Les myofibrilles étant activées par des gènes contenus dans les noyaux, on pensait que le nombre de noyaux par cellule musculaire s'ajustait à la taille des cellules musculaires pour répondre à ses besoins. Le mécanisme serait le suivant. Activé par un signal, des cellules souches voisines, les satellites, se multiplient et fusionnent avec les cellules musculaires pour leur donner leur noyau. En cas d'atrophie musculaire, donc de perte de muscle, le surplus de noyaux s'autodétruit par apoptose, donc mort cellulaire programmée. Les biologistes ont montré que lors d'un entraînement physique, le recrutement de noyaux a bien lieu de cette façon, mais il précède l'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire que avant que la masse musculaire ne se développe. En outre, le nombre de noyaux ne diminue pas lorsque l'on stoppe l'exercice. Même quand le muscle s'atrophie, les noyaux se tassent dans les cellules amincies, prêtes à produire davantage si le muscle est à nouveau soumis à un entraînement. Donc, voilà ce qu'est la mémoire musculaire. Je continue. N'ayant plus besoin de fusionner avec des cellules satellites pour revenir à leur état hypertrophié, les cellules musculaires regonfleraient donc plus rapidement lors d'un nouvel entraînement. Mais ils précèdent l'hypertrophie musculaire. En outre, le nombre de noyaux ne diminue pas lorsque l'on stoppe l'exercice, mais quand le muscle s'atrophie, les noyaux se tassent dans les cellules, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Donc là, on voit bien que finalement, l'inégalité entre un débutant et un pratiquant avancé. Le pratiquant avancé, s'il arrête complètement l'entraînement pendant très longtemps, il peut avoir revenir à un niveau débutant en termes physiques, c'est-à-dire visuellement, il peut ressembler à un débutant. Mais par contre, s'il démarre en même temps que le débutant, il va plus rapidement regagner du muscle et de la force. Et c'est pour ça que quand je parle de plusieurs moments où on est un peu dopé naturellement, c'est la première chose, c'est quand on débute, quand un débutant qui fait bien le job, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais soulevé un haltère, ni mangé diète, et que vous vous mettez du jour au lendemain à vous entraîner et à bien manger, je précise bien, à bien manger et à vous entraîner correctement, vous allez avoir une progression énorme. C'est-à-dire que la rapidité à laquelle vous allez gagner du muscle, quel que soit votre âge, va être impressionnante. Mais ça, c'est uniquement vrai si vous faites les choses correctement. Deuxième chose, deuxième moment magique, deuxième dopage naturel, c'est si vous reprenez l'entraînement. Après une phase d'entraînement intense et pendant des années, si vous abandonnez l'entraînement et que vous y revenez plus tard, vous allez regagner du muscle. Alors, faut pas espérer, parce que je parle avec pas mal de personnes qui s'entraînent depuis des années, mais qui n'ont pas un bon physique parce que ils s'entraînent un an, ils arrêtent, ils reprennent 3 mois, ils arrêtent, ils reprennent 6 mois, ils arrêtent. Et ça, c'est pas valable. En fait, c'est valable si vous aviez eu par le passé une progression assez importante. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un physique assez athlétique, assez musclé, assez convaincant pour vous, en tout cas, qui vous plaît. Et, donc, du coup, là, vous allez rapidement y revenir. En tout cas, au moins au niveau de force et après au niveau physique. Donc il y a deux phases comme ça. En fait, la phase la plus compliquée, c'est quand on est dans la progression, quand on est à l'intérieur de la progression, c'est-à-dire que quand on s'entraîne depuis des années sans pause et tout ça, c'est plus compliqué parce que plus lent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit sans cesse faire grossir finalement quelque chose qui est très difficile à faire grossir. Encore faut-il qu'on ait envie de faire grossir sa masse musculaire, mais quelqu'un qui cherche à faire une prise de masse sur le très très long terme, c'est-à-dire de toujours progresser, ce qui n'est pas mon but, hein, d'ailleurs, je vous le précise, moi je ne suis pas sur la quête de masse musculaire à outrance, c'est pas mon objectif personnel. Moi, enfin, si vous connaissez un peu mon parcours, il est pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt d'avoir voilà un physique plutôt maigre dans le sens avoir peu de matière grasse, de masse grasse, une musculature qui va avec mon rapport taille. Donc c'est-à-dire que de pas être trop large, de pas être trop musclé par rapport à ma taille, je fais 1m75. Donc j'ai pas envie non plus d'être un bloc même si naturellement on devient jamais trop musclé. On a quand même une ligne qui peut être un peu tassée si on commence à trop gonfler au niveau, par exemple, de la largeur du dos, de la largeur du tronc aussi, du tour de taille, quoi. Si on commence à avoir un gainage trop épais, un fessier trop bombé, trop beaucoup trop volumineux, des cuisses trop galbées et tout ça, ça a tendance à un petit peu à tasser. Il y a des gens chez qui c'est un objectif et je le respecte parce que voilà, c'est aussi du travail et c'est aussi esthétique à une certaine d'une certaine façon. Mais vu que la beauté entre guillemets est subjective et en tout cas moi personnellement, ce ne sont pas mes critères à moi de beauté. Pour moi, mes critères à moi de beauté, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire les objectifs que je suis depuis des années. Donc voilà, vous savez un petit peu plus sur la mémoire musculaire, en tout cas la mémoire des muscles, et cet article, pour vous dire, il date pas d'hier, il date de près de 10 ans, donc je peux vous garantir qu'on le sait depuis longtemps, donc il n'y a pas réellement de pour l'instant de nouveautés sur le sujet, en tout cas beaucoup plus significatif que ça. Je continue avec l'article suivant et je me resserre une petite gorgée d'eau. Alors, cet article s'appelle « Le paradoxe du muscle ». C'est un article de Cerveau et Psycho. Donc j'en parle régulièrement dans les podcasts, je suis abonné, je paye pour avoir accès aux articles, j'aime leur contenu. Et donc du coup, j'ai récupéré quelques petits trucs. D'ailleurs, la première chose intéressante dans l'article, c'est qu'il parle des bodybuilders et souvent les bodybuilders sont les personnes qui ont le plus de muscles, mais ont souvent une petite estime d'eux-mêmes. Bon, c'est pas toujours le cas parce que si vous prenez un mec comme Arnold, je ne pense pas qu'il avait une petite estime de lui-même. Bref, mais bon. On n'a pas eu beaucoup de bodybuilders comme Arnold quand même, hein. Des mecs qui sont à la fois très bien tankés, à la fois avec une confiance, le mec qui transpirait à l'époque de Pumping Iron, etc. Ce mec-là transpirait la confiance en lui, un ego surdimensionné, etc. C'est pas forcément ce qu'on voit et ce qu'on aimerait voir peut-être, je sais pas. J'ai toujours un doute là-dessus parce qu'entre ce que les gens disent vouloir voir et ce qu'ils aiment réellement voir, il y a souvent une différence. Donc je commence à noter à citer l'article. Alors, le muscle séduit. David Frédéric et sa collègue Marty Hazelton ont confirmé en présentant à des jeunes femmes âgées de 20 ans en moyenne 6 photos d'un homme vêtu d'un simple boxer et dont la musculature avait été trafiquée à l'aide d'un logiciel de retouche d'image. Donc en fait, ils ont pris le même bonhomme, torse nu, sauf qu'ils l'ont retouché pour le faire de plus en plus musclé ou de... Enfin voilà. Pour bien s'assurer que son sourire ou la profondeur de son regard ne présente aucune influence sur le visage caché, donc son visage a été caché en fait. En gros, ils ont pas mis le visage du bonhomme, juste le corps quoi. Donc sur les 3 premières photos, son corps prenait une allure allant de mince à un peu enveloppé, sans que ses muscles ne soient saillants, tandis que sur les 3 suivantes, il était de plus en plus athlétique. Précisons qu'il n'atteignait pas les niveaux extrêmes observés chez les champions de bodybuilding, évoquant davantage un corps de boxeur. Quand les participantes ont évalué les photos, les résultats ont été sans appel. Le groupe des costauds était nettement préféré, jugé plus sexy, plus dominant, ils obtiennent une note moyenne de désirabilité sexuelle de 6.7 sur une échelle de 9, contre 4.2 pour l'autre groupe. Soit une augmentation du potentiel de séduction de 60%, juste en s'entretenant un peu. Contrepartie, les évaluatrices les jugeaient plus volages et moins susceptibles de s'engager. J'aime bien la musclé égale, en fait, plus volage et moins susceptible de s'engager parce que forcément, plus une personne nous paraît séduisante, n'oubliez pas une chose, c'est que souvent, une personne est séduisante parce qu'elle séduit la personne, mais également son entourage. C'est-à-dire que si vous parlez, par exemple, à votre... vous avez peut-être déjà entendu votre copine, alors... Il y a des fois, il y a de la jalousie aussi dedans, hein. Je dis pas, il y en a qui, c'est pas, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais certaines fois, ou peut-être que vous l'entendrez pas directement de votre copine, mais par le biais d'autres personnes, etc. Mais en règle générale, je dis bien, il y a toujours des exceptions, donc m'attaquez pas directement avec ça. Une femme aime bien que son homme plaise à ses copines physiquement. C'est-à-dire que une femme aime bien savoir qu'elle est avec un homme qui est beau, désiré par elle, mais aussi par les autres. Et là, il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, puisque moi, ma femme est hyper jalouse et justement, elle préférait non, elle va pas, elle préférait que tu sois moche. Elle préfère que tu sois attirant. Et le fait que tu sois attirant pour les autres, ben ça te rend encore plus attirant. Bref, je continue. Ce qui disait également quelque chose, c'est que puisque t'es musclé, t'es plus attirant. Donc si t'es plus attirant, tu vas avoir plus de choix. Donc si t'as plus de choix, tu vas avoir plus de risques de partir avec une autre et donc de moins t'engager. Donc c'est aussi ça ce que dit l'étude là dans la contrepartie. Bref. Moi, ce que je note dans ce rapport-là, c'est qu'ils disent plus un physique, plus un corps de boxeur. Mais un corps de boxeur, c'est un corps non pas... C'est pas donner des coups de poing ou mettre des coups de pied qui rend musclé. Hein. Ce qui donne un corps musclé, c'est l'entraînement de boxe. Et l'entraînement de boxe, pour tous ceux qui en ont fait, c'est 35, 40, voire 45 minutes d'exercice. Donc on court, on fait de la corde, on fait des pompes, on fait des abdos, etc. pour 15 à 20 minutes grand maximum en fin d'entraînement de combat. Donc la réalité, c'est que c'est l'entraînement qui donne le corps de boxeur plus que la mise en situation, le combat. C'est un petit peu... Il y a d'autres sports, c'est différent. Mais pour la boxe, le corps de boxeur, c'est pas en tapant dans un sac que vous allez avoir des super bras, etc. Bref, il faudrait en faire des tonnes, et encore, j'y crois même pas, parce qu'il y a pas de... Enfin, il y a pas de tension sur les biceps, admettons, suffisant pour faire grossir des muscles, etc. Même s'ils ont dit pas un corps de bodybuilding, mais vous avez ne serait-ce qu'un corps de mannequin. Donc un corps de mannequin, ce qui plaît le plus, c'est-à-dire un corps assez fin, tour de taille assez mince, une musculature pas trop sèche, mais quand même assez dessinée, des abdos apparents, etc. Un peu d'épaule, un peu de bras, un peu de pec, enfin bon, vous connaissez les critères. Ben pour avoir ça, eh ben c'est de la muscu. C'est pas du vélo, c'est pas de la corde à sauter, c'est pas des choses comme ça. Donc c'est de la musculation combinée à un peu de cardio pour maintenir un peu son taux de gras bas, avec évidemment une nutrition adaptée. Bref, en tout cas une chose est sûre, c'est que plus on est musclé, plus on est attirant. Et je continue. En fait, c'est que avec les années, les hommes se rendent compte que ça n'est pas 100% vrai. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on mise tout sur le physique, rien sur le reste. Quand on avance un peu en âge, on commence à comprendre que certes, le physique compte, mais qu'il faut aussi avoir d'autres qualités dans la vie pour être attirant et tout ça. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais le dernier paragraphe dit là dans l'article que j'ai récupéré, est-ce à dire qu'avec le temps, les poignées d'amour deviennent un atout de charme? Point d'interrogation. N'exagérons pas non plus. L'étude de Sean Lynch et Debra Zendler a également montré que l'idéal des femmes reste considérablement le même à tout âge et correspond à un profil finement musclé. Donc à tous les âges, les femmes, elles aiment les hommes entretenus. Désolé messieurs, un petit entretien régulier sera toujours plus apprécié qu'un programme routinier chips télé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la conclusion de l'article. Ce qui me fait rire et mon côté galant me dirait que c'est normal de ne pas le faire. Mais mon côté où tout le monde doit être égaux me dirait c'est pas juste. Parce qu'un article comme ça mis dans l'autre sens, je vous garantis que tous les mecs qui font l'étude, ils se font mais démonter avec des manifestations et tout. De dire par exemple, bon ben désolé les femmes, mais les poignées d'amour, les grosses fesses, ça va pas le faire. Donc le régime Netflix chips, ça va pas le faire non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas, on se voit pas dire ça dans ce sens-là quoi. Bref, moi, enfin, on s'en fout. C'est juste pour dire que le physique compte à tout âge. En tout cas, le physique d'un homme. Je vais pas vous cacher, mesdames, pas besoin d'études. Votre physique compte aussi à tout âge. Donc voilà, suivez les mêmes lignes que nous, en tout cas les mêmes lignes que l'étude. Ça pourra que booster votre taux de désirabilité, votre libido et tout. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une newsletter récemment. J'avais mis une citation, hein, une phrase qui m'était venue. En parlant que le sport améliore tous les facteurs de vie, en tout cas être musclé est bon pour plein de choses, la confiance en soi, la recherche d'emploi, la santé, et j'avais mis le sexe aussi parce que c'est vrai que on va dire la libido, de sentir bien dans sa peau, de sentir musclé, de sentir plus désiré et tout, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un puissant booster. Et je pense que même si c'est un sujet tabou, mais que beaucoup de personnes avec les années, par exemple, qui sont en couple depuis longtemps avec la même personne, qui avancent en âge, etc., dans les routines et tout, c'est vrai que bah, d'avoir un bon physique, ça aide. Ça aide soi-même avant d'aider l'autre, hein, ça aide soi-même, et l'autre également, hein, évidemment, c'est toujours plus agréable. Donc, par rapport à la conclusion, les poignées d'amour ne sont pas encore validées, même s'il y en a qui disent que c'est mignon, ça je l'avais entendu déjà. Ah, mais c'est mignon, j'aime bien son petit ventre et tout. Ouais. Mais ce serait encore plus mignon s'il avait une petite tablette de chocolat. En tout cas, peut-être pas pour toi, mais pour beaucoup d'autres femmes. Enfin, pour toi, pour la nana qui dit ça. Mais pour beaucoup d'autres femmes, c'est l'étude, elle le dit en tout cas. Donc moi, je trouve ça à la fois... En fait, aujourd'hui, parce que cette étude a daté un petit peu. Aujourd'hui, on pourrait plus trop publier ce genre d'étude. C'est montrer à quel point, finalement, le politiquement correct est devenu très ancré dans notre... Dans notre société, de dire que faire du sport c'est bien pour ce genre de choses et tout, on est très dans le primaire. En fait, on essaye de voiler ces émotions profondes, ces sentiments, ces instincts. Et la morale d'aujourd'hui va un peu contre les instincts. C'est comme ça en fait. Quelqu'un de dominant, quelqu'un de viril, quelqu'un de musclé, est plus attirant. Et c'est comme ça. Et c'est malheureux, mais on peut dire que c'est une mauvaise chose, que c'est pas bien, que c'est ancestral, que c'est archaïque, que c'est tout ce que vous voulez. Mais la réalité montre que au plus profond de notre cerveau, de nos instincts, c'est comme ça qu'on réagit. Alors pas que les femmes, les hommes aussi. Hein, quand ils voient quelqu'un de torse en avant, viril, etc., ben forcément, il aura pas envie de se frotter à lui, il aura pas envie de le contrarier. C'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien, on est câblé comme ça, et c'est pas de la politique, c'est pas de la morale, c'est pas de la bien-pensance ou j'en sais rien, qui changera des années et des années de câblage cérébral et d'instinct, en fait. C'est tout, c'est comme ça. Donc, en fait, le fait de le comprendre et de le savoir, c'est de se dire, ouais, c'est pas très moral dans la société dans laquelle on vit, mais finalement on est câblé comme ça. Donc certes, on peut essayer de le mettre un petit peu, et en fait on va, je pense qu'on en créera à terme une forme de tabou, c'est-à-dire qu'un homme, quand il sera naturellement viril, musclé et tout ça, ça deviendra peut-être à terme un tabou pour lui, quelque chose, il aura une forme de pudeur avec ça parce qu'il en aura honte. Je pense pas qu'il faille en avoir honte, que ce soit de tout ça, que ça soit à la fois la virilité, la masculinité et tout, il faut pas en avoir honte. Au contraire, je pense que le pire de tout, c'est quelqu'un qui a un trait de caractère et qui essaye d'en avoir l'opposé. Ça se voit, c'est souvent violent et c'est souvent même dérangeant. Donc en fait, les interactions ne seront pas fluides et honnêtes, quoi. Bref, j'arrête sur ce sujet-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous n'avez pas envie de me balancer des tomates pour le dernier article. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous me retrouverez fin de semaine pour la formation. Je ne sais pas encore le thème que je fais, parce que j'en ai plusieurs en stock, là, dans le tiroir, que j'ai déjà tourné, que je vous prépare pour on sera en début de 2021. Et donc je sais pas laquelle je vais vous mettre en fonction de mon humeur. Et en tout cas, si vous avez envie de voir celle que j'ai publiée donc dimanche, ça se retrouvera directement dans les notes de l'émission. C'est 7 cheat meal à faire en version saine. Vous avez le lien, vous cliquez, vous accédez à l'espace VIP, donc à toutes les formations et aux dernières, dont celle-là. Voilà, je m'arrête ici. Passez un bon réveillon, profitez bien, mettez-vous au calme avant la reprise et voilà. Mais en tout cas, profitez-en à fond. Bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.